On va prier, puis on va continuer et finir le décalogue, hein, les 10 paroles de Dieu à son peuple. On va prier. Seigneur, merci encore de ce temps où on va pouvoir s'arrêter. Merci pour ta parole. Nous croyons qu'elle a autorité, qu'elle est la vérité, et que c'est le moyen que tu utilises pour parler à nos cœurs, pour nous encourager, nous consoler, nous corriger. Alors Seigneur, merci encore pour elle ce matin. Aide-nous à grandir ensemble à travers elle. Je prie aussi pour chaque enseignement des enfants, que tu puisses leur faire du bien, toucher leur âme et les chercher, Seigneur, dès leur plus jeune âge. Accorde aussi la sagesse et les paroles à propos pour chaque enseignant et qu'encore ce soit des moments qui t'honorent. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Parler avec vérité et être satisfait de ce que j'ai, c'est ce que nous allons essayer de voir à travers les 2 derniers commandements du Décalogue. Avant que Moïse reprenne son rôle de médiateur entre Dieu et le peuple, Dieu va finir ses 10 paroles avec l'intégrité de notre langue et de nos yeux. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, avec cet objectif, hein, voulu de Dieu de le libérer, de le racheter, il faut bien se souvenir que ce n'était pas conditionné. Il n'aura pas d'abord donné les 10 commandements, il dit vous respectez ça et ensuite je vais vous libérer, je vous racheter. Non, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grâce, a d'abord fait le choix de venir entendre les cris de son peuple, de le libérer, de le racheter. Malgré les murmures, il a continué à les accompagner, à les guider. Et enfin, il les a confrontés à ces 10 paroles. Il était là directement. C'est plus Moïse qui est le médiateur pendant ce temps-là. C'est Dieu qui va parler à son peuple. Et Dieu voulait que son peuple vive comme un peuple libéré et racheté. Et en quoi cela consistait? Vivre les 10 paroles de Dieu. Dieu voulait qu'Israël démontre son attachement et sa reconnaissance à travers son obéissance aux paroles de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui était important pour Dieu. Si les Israélites n'honoraient pas Dieu à travers ça, si les Israélites bafouaient le peuple, son prochain, à travers les 10 commandements qui sont mentionnés, Israël ne pouvait pas être une lumière parmi les nations. En fin de compte, c'est très pratique. Je vous libère, je vous rachète, je vous donne des paroles de vie, on l'a vu, pour que vous puissiez me représenter, me refléter à travers les nations qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas ce vrai Dieu. Vous avez le privilège d'entendre des paroles qui sont là pour me refléter. Israël avait cette mission. La langue et les yeux d'Israélite devaient honorer Dieu et faire du bien à son peuple. Et c'est ça qu'on voit progressivement dans ces 10 paroles. Et ces choses-là, en fin de compte, elles sont toujours d'actualité pour les chrétiens. Nous ne sommes pas Israël, nous n'avons pas remplacé Israël. Mais nous allons voir que Dieu continue de vouloir que son peuple, l'Église aujourd'hui, honore Dieu et fasse du bien à son peuple. Et je suis conscient que ce petit truc-là, là, notre langue, a cette capacité de bénir Dieu de ce que nous venons de faire, mais aussi la capacité de détruire la création de Dieu. Je suis très conscient aussi que ces yeux-là sont capables de contempler les merveilles de Dieu, mais que ces yeux-là sont capables aussi de convoiter des choses que Dieu ne m'a pas données, qui vont amener à faire du mal. Ça, c'est la réalité encore même aujourd'hui. Et ce matin, j'aimerais qu'on voie ensemble que Dieu encourage son peuple à parler avec vérité et être satisfait de ce que j'ai. Alors, on va commencer avec la première parole, hein. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, Exode 20 au verset 16. Pourquoi? Pourquoi tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain? La première raison, je pense qu'elle se trouve en Dieu en fin de compte. Dieu est vérité par nature. Dieu ne ment pas. Et si ces commandements-là sont aussi pour refléter Dieu, il est normal que Dieu demande à son peuple, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Pourquoi? Parce que moi, je suis un Dieu vrai. Moi, je suis la vérité. Je ne mens pas. Et en tant que peuple racheté, tu dois refléter ça. Tu diras la vérité. Tu diras la vérité. Et vous savez, Dieu, dans l'Écriture, quand vous lisez, accorde une grande importance au niveau des témoins. Hein, les témoins, c'est quelque chose qui est important pour Dieu. Et il veut que les témoins fournissent des informations exactes. Pas de spéculation, pas de peut-être que, ou je pense que ça s'est passé peut-être comme ça. Non, Dieu veut que les choses soient vraies. Ce que j'ai vu, je le retranscrit comme ça a été fait. Et dans le contexte, ces témoins ici parlaient devant des personnes établies par Dieu qui avaient à juger une situation. Si les témoins ne disaient pas la vérité, il allait être extrêmement difficile. Vous savez, plus tard, Moïse va être confronté à Jéthro pour la gestion du peuple. Ils vont mettre en place des anciens et c'est eux qui vont être là pour juger justement ces notions de faux témoignages. Et si les gens arrivaient avec des faux témoignage ou n'apportez pas la vérité, il allait être compliqué pour les 70 anciens choisis par Dieu à travers Moïse d'avoir des décisions appropriées. Ça allait être compliqué pour eux. À cette époque-là, pas de caméra de surveillance, pas d'ADN, pas de toutes ces choses-là. Donc, en fin de compte, là, l'innocence ou la culpabilité d'une personne dépendait de témoignages de personnes sur des situations bien précises que des hommes aller devoir juger, évaluer. Pas si simple l'histoire. Pas si simple. L'honnêteté des témoins et leur intégrité étaient tellement importantes. Tellement importantes. C'est pour ça que Dieu parle souvent de 2-3 témoins avant de juger une situation. Jamais, jamais sur une seule déposition. Jamais. La Bible dit aussi que le faux témoignage pouvait inclure le refus de divulguer des informations. On cachait des infos. Et ça, c'est ce qu'on voit dans Lévitique. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Donc l'importance de ne pas cacher les choses aussi dans la notion d'être un bon témoin. Dans les Proverbes, on voit aussi l'importance de ne pas témoigner à la légère. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain, voudrais-tu tromper par tes lèvres? C'est quelque chose d'important dans la communauté, de ne pas mentir. Pourquoi? Quelles pouvaient être les conséquences de personnes qui apportaient un faux témoignage? Quelles pouvaient être les conséquences? J'ai pas entendu. La mort. La mort. Une personne pouvait être injustement mise à mort parce que le mensonge, ça tue, ça détruit. Je lisais quelques articles sur aux États-Unis depuis 1973. Le pourcentage de faux témoins, pour différentes raisons, hein, discrimination ou autre, le nombre de gens qui sont morts et qu'on s'est dit après, mais mince, on s'est trompé parce qu'ils ont menti. Uri, Naboth sont des gens qui sont morts à cause de ça. Étienne, notre Seigneur Jésus-Christ, est mort à cause de faux témoins. Un faux témoin impacte la vie des autres. Ma langue, quand je mens sur quelqu'un, impacte la vie d'une autre personne. Et des fois avec l'abus, encore d'autres personnes. Dieu a la haine du mensonge et du faux témoin. Dans le Proverbe au chapitre 6, j'ai mis Proverbe 6, mais je voulais lire un peu les versets qui précèdent pour avant de comprendre le contexte dans le verset que j'ai donné. Au Proverbe verset 6, si vous avez vos téléphones ou vos Bibles, Dieu mentionne des choses qui est. Oui, Dieu a la haine de certaines choses. L'Écriture l'enseigne, lui-même nous le dit. Ici, il dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il en a horreur. Il parle des yeux hautains, au verset 17, et la langue menteuse, la main qui répande le sang innocent, la langue menteuse. Et quand on arrive au verset 19, que j'ai mis ici, on est dans la continuité des choses qu'il a la haine, c'est le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Celui qui ment crée la discorde au sein d'une famille. Combien de familles ont été détruites à cause de mensonges? Et ça peut être des fois aussi un symptôme, les querelles dans une famille. Il faut penser, des fois, réfléchir à la source. Ça peut être une personne a menti. Vous savez, même si le mot mentir n'y est pas dans le neuvième commandement ou la neuvième parole de Dieu, bien sûr que Dieu est en train de parler de ça. Il est en train de parler du mensonge. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges, dit le Proverbe 14, verset 5. Dieu parle aussi d'autre chose, un autre mot qui est synonyme, qui va avec ce qu'on est en train de voir. Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Et là, c'est un autre mot. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Vous voyez la notion de honorer Dieu en disant la vérité, ça touche ma relation avec Dieu, mais pas que. Ça impacte ma relation avec les autres. Un homme que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler, ou en tout cas vous savez qu'il y a des écoles ou des rues qui s'appellent comme cela, je ne vais pas m'attarder sur le personnage, mais sa phrase m'a été pertinente. Et je ne suis pas forcément d'accord avec lui non plus. Il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie. Je suis d'accord avec lui que la calomnie, c'est un poison. Mais je crois qu'il y a un antidote. Je crois qu'il y a un antidote. Je crois que Christ est l'antidote. Je crois que Christ est la vérité. Il ne veut pas cohabiter avec un faux témoin ou avec une personne qui ment. Parce que mentir, c'est atteindre tout d'abord à la personne de notre Créateur. Et Jésus-Christ est venu pour nous aider, nous qui sommes par nature des menteurs, des faux témoins, pour venir justement transformer ça en nous, pour nous encourager à renoncer à ça. Pourquoi ? Pour honorer notre Dieu, pour le refléter parce qu'il est la vérité. Pourquoi ? Pour faire du bien à son peuple. Pourquoi ? Pour montrer au monde qu'on n'est pas comme eux. Et ça, c'est par la personne de Jésus-Christ. Il a quitté sa gloire, lui qui est la vérité, pour venir toucher des menteurs comme moi. Parce qu'il nous aime. Et l'antidote est de vivre les sentiments qui est en Christ. L'antidote est Jésus-Christ. Faire disparaître la calomnie, renoncer au mensonge, demander pardon, dire la vérité, c'est ce que Paul enseigne. C'est ce que Paul enseigne. Regardez des versets qui peuvent nous encourager. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, et le mot qui nous intéresse ce matin, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça veut dire que dans l'église d'Éphèse, il y avait un problème avec tout ça. Une église normale. Une église normale. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. À Colosse, il y avait ce problème-là aussi. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Dans le même passage d'Éphésiens, renoncez au mensonge. Ok, on s'arrête là ? Non. Non, ce n'est pas juste que je m'arrête au mensonge. Qu'est-ce que je fais ? Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il n'est pas en train de dire, dites vos quatre vérités. Il y a une nuance entre ça. Dire ces quatre vérités, c'est souvent de la méchanceté. Que chacun parle de vous selon la vérité à son prochain, c'est selon Jésus-Christ. Ce n'est pas la même chose. Voilà l'antidote. L'antidote à ça. Alors la question, c'est pourquoi on ment ? Alors qu'on est tous convaincus en tant que chrétiens que le mensonge détruit. On le sait, je ne vais pas dire à un chrétien, est-ce que c'est bien de mentir ? Il n'y a pas un chrétien censé qui va me dire, oui, c'est bien. Non, on est tous convaincus que le mensonge, Dieu le hait et que ce n'est pas bon. On le sait. Mais alors pourquoi ? Pourquoi on ment ? Une des raisons premières, c'est des fois pour arriver à ses fins. N'est-ce pas ? Une autre, c'est pour fuir une situation embarrassante, cacher un acte qu'on a parfois honte, peur du regard des autres qui ne sera plus jamais le même. Et c'est peut-être vrai. Mais est-ce que c'est une raison juste de faire ça ? Pour éviter un conflit. Bon, pour ceux qui sont mariés, ça nous est arrivé. Mais là, j'ai appris une chose, c'est que c'est un double mensonge. Hein. Et c'est double problème. Le conflit arrivera. Vous savez quoi ? C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Quelqu'un qui est proche à moi m'a toujours dit, Florent, le mensonge prend toujours l'ascenseur et la vérité l'escalier. Mais à un moment donné, ils vont se retrouver. À un moment donné, ils vont se retrouver. Il vaut mieux pas que l'escalier soit trop long. Si une personne persévère dans le mensonge et la calomnie, ne dit pas la vérité, qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu prend au sérieux ça, très au sérieux. Celui qui calomnie en secret son prochain, c'est fort hein, que notre Dieu parle comme ça. Je l'anéantirai. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Bien sûr, à travers tous ces versets qui sont forts pour montrer la sainteté de Dieu, je vous ai parlé de l'antidote qui est Jésus-Christ, qui fait grâce et qui nous encourage à renoncer à tout ça. Mais vous savez, il y a deux personnages où l'Église va être frappée fort dès le début. Dès le début de la naissance de l'Église, le mensonge commence. Et deux personnages, mari et femme, sont frappés parce qu'ils ont menti à Dieu. C'est ce qu'il dit, ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont menti à Dieu. Ananias et Saphira. J'aimerais finir ce point avec cette exhortation de Paul qu'on a lu tout à l'heure, mais dans le contexte qu'on a lu tout à l'heure dans Éphésiens 4, et c'est ce verset-là. « Qui sort de votre bouche aucune parole mauvaise. » Et dans « parole mauvaise », le mensonge est inclus. Mais s'il y a lieu de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est le dernier des commandements de Dieu. Dieu finit ses 10 paroles par une attitude qui est enracinée dans le cœur de l'homme. Et c'est peut-être celle qui est la plus difficile, voire impossible à pouvoir juger de manière visible, parce qu'elle est à l'intérieur. Hein? Et il faut des faits pour juger la convoitise. Quelqu'un qui convoite, ça va être compliqué de le voir. Mais ses actes, ses faits vont pouvoir le démontrer. Donc ce que j'aimerais voir avec vous maintenant, c'est la notion d'être satisfait de ce que j'ai. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Retenez bien, pendant qu'on va réfléchir à qu'est-ce que la convoitise et qu'est-ce qu'elle implique, la convoitise dans l'Écriture est liée à un désir intérieur qui implique la vue. Les Israélites, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils se regardaient entre eux, et puis ils pouvaient, Dieu sait qu'ils allaient commencer à dire ah, ouf, ma femme, elle est un peu moins sympa que l'autre femme, ou mon mari peut-être un peu moins sympa que l'autre mari. Ouah, quand même, en vieillissant, elle est un peu plus belle que la mienne. Ah, il a un peu plus de serviteurs ou de servantes que moi, lui. Ouf, comment on va faire? Oula, les bœufs, les ânes, c'est pareil. Ou même, ils sont de meilleure qualité quand même. Et puis plein de choses comme ça. Ils voyaient ça chez les autres. Et ça l'a amené des problèmes. Quand Dieu parle de maison, ici, il est question de tout ce qui est attaché à la maison. En observant ce que les autres avaient, qu'est-ce qui allait naître? Des pensées d'insatisfaction pouvaient naître en désirant prendre ce que le voisin avait. Et là, ça va de la femme à son âne, il y a d'autres choses, tout en fin de compte. Et Dieu demande quoi à son peuple? Vous renoncez à ça. Dieu est en train de dire à son peuple, vous allez renoncer à ce désir intérieur qui amène à faire du mal. Vous allez renoncer à ce désir intérieur qui va vous amener à faire du mal. Un désir qui reflète l'insatisfaction de l'âme. Ce que j'ai ne me suffit pas. Et ce commandement est bon. Très bon, parce qu'il révèle le péché. Il révèle le péché de notre cœur. Les autres font des actions. Celui-là, ça révèle déjà le péché de notre cœur. Et c'est intéressant que l'apôtre Paul, en Romains 7, quand il parle de ce chef religieux qui était attaché à la loi, il aimait la loi de Dieu, tout cela, il voulait, parce qu'il savait que la loi était bonne, il exprime ce désir de vouloir obéir à la loi de Dieu, mais à un moment donné, il dit, ah, j'y arrive pas. Et c'est intéressant qu'il utilise quel commandement dans Romains 7? Celui-là. Tu ne convoiteras pas. Ah non, je ne l'ai pas mis, pardon. Mais je vais le lire. Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Ce commandement de tu ne feras pas ça parce que c'est quelque chose qui était bon, ça donnait la vie, parce que la loi était bonne. Elle a révélé en fin de compte son cœur qui lui était mauvais. Et sa convoitise avait besoin de rencontrer qui à l'apôtre Paul aussi ? De rencontrer le Messie, de rencontrer Christ pour trouver la vraie vie. Alors pour comprendre la convoitise ce matin, on va faire quelque chose. On va avoir des cas concrets dans l'Écriture. Et chaque cas concret va vous apporter une facette de la convoitise. Pourquoi ? Parce que souvent la convoitise, on le résume à ça chez les chrétiens, et Jésus a raison, hein, ça en fait partie, mais ça serait simpliste de le limiter à je regarde une femme, je la convoite dans mon cœur et ça va être ça. Voilà, on limite des fois la convoitise au désir uniquement que sexuel. Mais la convoitise dans l'Écriture, mes amis, vous allez voir, c'est bien plus grand que ça, bien plus profond que ça. Et ça va montrer que mon cœur est en combat chaque jour avec ce péché, en fin de compte. Et Dieu veut me libérer de ça pour vivre dans la satisfaction qui est en Jésus-Christ. Premier exemple, on va revenir à la Genèse, Ève. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais le mot « était précieux », c'est le même mot en hébreu que le mot « convoité ». Pour ouvrir l'intelligence, il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui est auprès d'elle, et il en mangea. Pourquoi Ève en arrivait là ? Pourquoi Ève est en arrivée à ça ? Alors qu'elle avait, à mon avis, hein, je crois, que Ève, elle avait tout. Elle avait le privilège que vous n'avez pas, que seuls Adam et elle ont eu, d'être dans la présence de Dieu de manière parfaite. Ma question c'est, qu'est-ce qu'on veut de plus que d'être dans la présence parfaite de Dieu ? Elle avait tout. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de plus que d'être dans la présence de Dieu ? Pourquoi Ève est en arrivée là ? Parce que son cœur a commencé à cultiver l'insatisfaction pendant son échange avec le prince du mensonge. Avec le serpent. Elle est en compagnie d'un menteur et d'un mécontent. Hein. Elle est en compagnie de lui. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a méprisé la loi de Dieu qui avait dit « Tu n'en mangeras pas parce que si tu en manges, tu vas avoir des gros problèmes. » Elle a voulu établir son propre cadre. Ce que Dieu me donne n'est pas suffisant. Elle a voulu établir son propre cadre parce qu'elle était insatisfaite du cadre dans lequel elle était, parce que quelqu'un est venu lui souffler, le cadre dans lequel tu es, il n'est pas bon. Et même la personne qui t'a donné ce cadre, il te ment. C'est ça. Et ça fait son chemin en elle. Et les membres du corps qui a été utilisé pour la convoitise de Ève ont été les yeux. Le texte dit, la femme vit, et elle a vu que c'était agréable à la vue. La vue stimule l'envie de posséder. Elle convoite ce que Dieu a interdit de toucher. Elle convoite ce que Dieu a interdit de toucher. Et le moyen, c'est la vue ici. Et le paradoxe dans toute cette histoire, si vous connaissez la suite, qu'est-ce qui va s'ouvrir chez Ève et Adam ? Qu'est-ce qui s'ouvre chez Ève et Adam par la suite, dans le verset qui suit ? Les yeux. Les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. Mais mes amis, ces yeux ne s'ouvrent pas pour contempler Dieu. C'est la pire chose qui va arriver à l'humanité, la chute. La honte. Vous ne connaissez pas ça. La convoitise veut définir son propre cadre. Je désire cela, je le prends. Quand Dieu va dire à Ève, vous savez ce verset, quelques versets plus loin, tes désirs se porteront sur ton mari, mais il aura autorité sur toi. Dieu est en train de dire, tu désireras, encore une fois, on est dans la continuité de, tu convoiteras le rôle que j'ai confié à ton mari. Quelque chose qui est très contesté aujourd'hui. Je ne parle pas de la nature, on est de même nature, mais les rôles, le cadre que Dieu donne. Ève, dans le contexte, il n'y a aucun théologien qui croit qu'elle est en train de parler des désirs sexuels. Ce n'est pas la malédiction qu'il est en train de lui dire, « Ah, tes désirs vont se porter sexuellement tout en temps à ton mari. » Non, ce n'est absolument pas ça le contexte. C'est un désir de convoiter ce que Dieu a donné comme responsabilité à l'homme, la femme va vouloir le prendre. Ça va être un combat de toute une vie. C'est une réalité, c'est l'Écriture qui l'enseigne. Tu convoiteras le rôle que Dieu a donné à ton mari. Il n'est pas question de sexualité dans ce passage, mais de vouloir prendre autorité, que Dieu ne lui a pas donné. La convoitise cherche à changer le cadre de Dieu. Retenez ça, la convoitise cherche à changer le cadre de Dieu. Et pour tant d'autres choses. On avait parlé des enfants il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on parle de l'enfant tyran ou de l'enfant Dieu. Plus de l'enfant roi, c'est passé encore au-dessus. On veut changer le cadre de Dieu. Un autre personnage, vous connaissez Acan dans l'Écriture? Vous connaissez ce personnage? Lui, il va freiner tout un peuple et va mettre en danger l'alliance. Un seul. À cause de quoi? De ses yeux. À cause de sa convoitise. Regarde le texte. Josué dit à Acan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait, ne me le cache point. » Acan répondit à Josué et il dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. » Il reconnaît le vocabulaire. « J'ai vu, les yeux encore, dans le butin un beau manteau de chinard, 200 sicles d'argent et un lingot d'or de poids de 50 sicles. Je les ai convoités, je les ai pris. » Ils sont cachés. Vous voyez tout ce vocabulaire qui va ensemble. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens, pas en marchant, mes amis. Ils sont partis en courant parce que la nation, l'alliance, la mort était là. Dieu était, ne blaguait pas avec ça. Ils courent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Acan et l'argent était dessous. On connaît la suite de l'histoire qui va être dramatique, mais Dieu va juger de manière juste ça. Mais Dieu avait interdit de toucher à quoi que ce soit à Jéricho. Et Acan a fait ce qu'il voulait. Il a convoité, il a caché ce que Dieu avait interdit de prendre. Il n'a pas repoussé l'acte de convoitise. Il n'a pas mesuré son acte égoïste. Il n'a pas mesuré les conséquences que tout le peuple allait être affecté par son péché. Des fois, on pense que notre convoitise personnelle que personne ne voit ne va pas toucher les autres. C'est faux. C'est faux. Acan fait comme Ève. Il prend ce qui est interdit. Il néglige le cadre de Dieu. Il pense qu'à lui. Dieu avait dit, tu ne touches pas ça, vous ne toucherez pas ça. Acan fait ce qu'il voulait. Une autre facette de la convoitise. On va aller voir Acab. Acab, lui, c'est le capricieux. Et on voit que la convoitise, on peut être capricieux. Pourquoi? Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jisréel avait une vigne à Jisréel, à côté du palais, Acab, roi de Samarie. Et Acab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. » Ok, sympa. « Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth, un homme intègre, répondit à Acab que l'Éternel me regarde de te donner l'héritage de mes pères. Donc là, il dit, pas content. Acab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole qui lui avait été dite de Naboth, de Jisréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Vous connaissez son ami, sa femme qui arrive, Jézabel, qui va être très sympa et qui va alimenter justement ce caprice, cette frustration qui est partie de la convoitise. Il voulait ça, il voulait quelque chose à son prochain, même le négocier, mais ça ne se faisait pas. On ne faisait pas comme ça. Ce n'était pas le cadre non plus voulu par Dieu. Et Acab fait son caprice et sa convoitise l'a emmené à faire quoi? À tuer injustement Naboth, à tuer un innocent. Et Dieu va dire à Acab, tu es un assassin et la suite est un voleur. Tu es un assassin et un voleur. Je ne dis pas qu'on va arriver comme Acab, mais nos caprices et nos frustrations peuvent être liés à la convoitise. Je n'ai pas ce que je veux et je suis prêt à tout pour l'avoir. Et des fois, on peut basculer dans des compromis qui vont nous emmener très loin. Parlons de David. Sa vie nous enseigne sur la convoitise. Vous ne retournerez pas tout de ce matin. C'est une réalité. Nos cerveaux n'ont pas forcément cette capacité. Mais que vraiment qu'il y ait un aspect de ce que nous entendons, qui puisse toucher votre cœur et nous aider à grandir dans ces domaines-là. David, le roi David, un homme que j'apprécie particulièrement par sa vie et comment il a été transformé. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rahab. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. David a convoité avant de commettre l'adultère, de mentir et de tuer, n'est-ce pas? Vous connaissez la suite de l'histoire? David a mis à mort Uri. Il a voulu cacher son péché, bien sûr, aussi. Mais la question, c'est qu'est-ce que nous apprend cette histoire sur la convoitise? Qu'est-ce qu'on va retirer de cette histoire sur la convoitise? Pourquoi prendre ce texte-là? Quelque chose qu'on peut apprendre, c'est que David n'est pas au bon endroit. Quand on n'est pas au bon endroit, ça va être aussi un moment où la convoitise va pouvoir se saisir de cette occasion-là, qui peut être l'oisiveté, pour nous emmener à développer cette convoitise en nous. David aurait dû être, dans cette période de campagne, aurait dû être sur le champ de bataille. Il n'avait rien à faire à Jérusalem. Ça ne veut pas dire que pendant qu'il y avait des batailles, David était obligé d'être tout le temps là. Non. On voit que des fois, Joab est là et David n'est pas là. Mais à cette période-là, David aurait dû être auprès de Joab. Mais David n'était pas au bon endroit. Et du coup, David va rester à Jérusalem. Un soir, il va être là, se balader. Je ne sais pas si c'est de l'oisiveté ou pas ici, mais en tout cas, il se balade, il n'est pas au bon endroit. Et là, il va faire quelque chose. Il va commencer à apercevoir, même le texte, c'est il va poser ses regards sur cette femme-là. David aurait pu renoncer à ça. David n'a pas dompté ses yeux. Il a laissé ses yeux regarder ce qu'il n'avait pas regardé, la femme d'un autre. Et ensuite, escalade de péché. Quand on n'est pas au bon endroit, quand on est dans l'oisiveté, la convoitise de notre chair va se développer plus rapidement. Et si on est tombé là-dedans, et qu'on n'ait pas le réflexe, la force, la capacité de dompter nos yeux, ça peut aller très loin. Fuyons l'oisiveté et disciplinons nos yeux. Je parle peut-être plus à un public masculin dans un contexte comme celui de David. Dernier exemple concret dans la Bible pour comprendre et encore voir un autre aspect de la convoitise. Asaph. Qu'est-ce que dit Asaph? Asaph, il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Nous croyons cela. Oui, Dieu est bon pour son Église, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, qu'est-ce que dit Asaph? Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Car je portais envie aux insensés, encore la vue, en voyant le bonheur des méchants. Asaph est en train de dire que Dieu est bon pour ceux qui voient comme Dieu. On croit ça. Un cœur pur, c'est un cœur comme Dieu. Il a raison d'affirmer que Dieu est bon, c'est une vérité essentielle à nos vies. Mais Asaph observe le monde. Donc, il a un cœur pour Dieu, Asaph. C'est un bon écrivain que Dieu a utilisé pour nous donner des psaumes et chanter des cantiques aujourd'hui. Mais Asaph, il est là et il observe le monde. Il voit le monde comme nous, on vit dans un monde qui nous entoure. Et le monde et son cœur, en tout cas son cœur, devient sceptique que Dieu est bon pour ceux qui vivent dans la justice de Dieu. Je suis un chrétien engagé pour le Seigneur. Je vis pour lui. Je le sers. Mais quand je m'arrête et que je vois ce monde corrompu qui ne veut pas de Dieu, et que moi, je vois toutes les souffrances que j'ai au quotidien, en servant ce Dieu qui est bon et qui est juste, ma convoitise est en train de me faire douter sur qui est Dieu. Je portais envie au mode de vie des gens de ce monde. Pourquoi? Parce que mes yeux observaient ces personnes-là. Ces gens refusent de croire et de vivre pour Dieu, et pourtant, il semble qu'ils vivent le bonheur, eux. Vous voyez le lien entre porter envie, la convoitise et la vue? Et il est là, il voit tout ça. Regardez ce qu'il dit au verset 16. Il nous dit quoi faire. Asaph nous dit quoi faire quand on vit dans cette théologie, je crois que Dieu est bon, mais je suis en train d'être sceptique que Dieu est bon avec tout ce que je vois autour, que les méchants, tous ceux qui ont la haine de Dieu réussissent, c'est pas moi, moi je souffre pour différentes raisons. Et là, il fait quelque chose qui nous enseigne un bel exemple. Asaph va faire, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Quand tu veux obéir à Dieu et que des épreuves t'arrivent, tu vas être submergé par la souffrance. Et tu te dis, mais mes amis, mes collègues, ma famille autour de moi, qui ne veulent pas de Dieu, pourtant, eux, ils semblent vivre le bonheur. Et Asaph, qu'est-ce qu'il fait? Il voit tout ça, il s'arrête pour réfléchir. C'est ce qui est le plus difficile dans notre société occidentale, hein, de s'arrêter pour réfléchir au passage. Mais lui, il s'arrête. Et Asaph voit sa vue a besoin d'être corrigé. Il a besoin d'être éclairé. Et il est très honnête, cet homme. Il dit que c'était difficile. C'est difficile de s'arrêter quand notre convoitise a commencé à observer les choses de ce monde et a commencé à frôler, à voir que Dieu n'est peut-être pas si bon que ça parce que les autres qui ne sont pas en lui réussissent plus que nous ou n'ont pas les mêmes difficultés que nous, n'ont pas les mêmes maladies que nous. Mais je crois qu'Asa va faire ce qu'il y a de plus important. Il va revenir dans la présence de Dieu. Asaph nous dit, je suis entré dans la présence de Dieu, je suis revenu vers Dieu pour lutter contre la convoitise. Une des clés que l'Écriture nous enseigne à travers Asaph, c'est de revenir vers Dieu. Parce qu'il a la capacité de nous mettre le bon collier dans nos yeux. Il a cette capacité à réajuster, à corriger notre vue sur la vision de ce monde. Qui peut être comme Asaph ? Asaph est allé au meilleur endroit. Asaph a vu plus loin que le temps présent. Asaph va dire ça au verset 26, tellement beau. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage, fonction des tractions, mon bien. Vous avez vu comment il commence, Asaph ? Une réalité du cœur de l'homme, à cause de la convoitise, de voir ces choses-là de ce monde. Et puis, il va au bon endroit. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit ? Dieu sera toujours le rocher de mon cœur, mon partage ou mon bien. Il est satisfait. Son âme est satisfaite. Parce que son seul et son plus grand bien, c'est Dieu. Quand cette vérité est ancrée et entretenue dans notre cœur, alors notre âme est sur le chemin de la satisfaction et notre vue est corrigée. Nous voulons être comme Asaph. Nous allons vivre des choses comme Asaph. Mais Dieu veut nous aider là-dedans. Chaque jour, mes frères et sœurs, nous sommes amorcés par notre propre convoitise. C'est ce que Jacques dit. Nous avons vu que la convoitise, c'est bien plus qu'un homme qui désire une autre femme que la sienne. La convoitise touche de nombreux domaines dans notre vie. La convoitise est une offense à Dieu car elle exprime une critique de la façon dont il pourvoit à chaque individu. On le dira jamais, mais au fond de nous, Dieu t'est injuste. Mais on ne le verbalisera pas comme ça. Alors j'aimerais vous laisser avec deux paroles de l'apôtre Paul ce matin, que vous connaissez bien. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Mais qu'est-ce que ce contentement ? Et là, Paul précise ça aux Colossiens. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est en train de parler de Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Ce n'est pas un concept, hein. C'est une vérité puissante de l'Écriture. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire être tout pleinement en lui ? Ou en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire que Christ est tout pleinement en nous ? Ça veut dire que Christ a fait ce choix de vous accorder tous ses bienfaits. Tous ses bienfaits, si vous êtes chrétien ce matin, vous les avez en Jésus-Christ. Et un des premiers bienfaits qu'on oublie, c'est notre salut. C'est notre salut. L'autre bienfait que nous avons, c'est le fait de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. J'aimerais vous encourager cette semaine à réfléchir à ça, à prendre le temps à réfléchir à cette verset. Ok, j'ai tout pleinement en lui. Ok, le salut, re-apprécier le salut. J'ai tout pleinement en lui. comme Asaph, je veux rentrer dans sa présence. Je veux me soumettre au cadre de Dieu. Je veux apprécier qui est Dieu. Tout simplement, je veux revenir vers le Christ. Le Christ est le seul qui est capable de lutter contre notre convoitise charnelle. Et je dirais que peut-être désirer Christ est la seule convoitise positive. Convoiter le Christ. Parler avec vérité, parce que Christ parle avec vérité. Être satisfait de ce que j'ai, parce que Christ est ma satisfaction. On va prier.